demander de vous asseoir. Oh, Rachel et Philippe, oh, formidable. Tous les peuples se saluent au nom de Jésus-Christ. Bon, au début du culte, à l'entrée de notre salle, vous êtes déjà salués. Est-ce que je peux vous donner encore 10 secondes? Encore de nouveau, saluez-vous encore, saluez-vous. À droite, à gauche, derrière, voilà, c'est... La paix dans la souffrance m'a touché, hein? La paix dans la souffrance. Hein? Quand on chante, ça va. La paix dans la souffrance. Hein? Je dis ça parce que je sais que quelques personnes parmi nous sont en train de traverser ce moment difficile, hein? À cause de maladies ou sinon autre chose. Voilà, la paix de Christ soit en vous, parmi vous, même dans cette souffrance. Ce matin, je continue comme j'ai prévu, j'ai annoncé dimanche dernier, Deutéronome 26, donc de méditer ensemble sur cette prédication de Moïse, le discours de Moïse. Ah, ce Moïse, ce grand chef qui est bien avancé. Qui est avancé, c'est bon? Ce que j'ai dit, qui est avancé, c'est bon? Ben, rassurez-moi. Hein? Qui est avancé en âge? Ah. Qui a avancé ou qui est avancé? Merci beaucoup. Qui est avancé en âge? Écoutez bien nos aînés. Hein? Il a maintenant presque 120 ans. Presque 120 ans. Sa vie était une longue traversée. Comme j'ai partagé dimanche dernier, dans son esprit, dans sa tête, il est déjà dans la terre promise. Waouh, quel vieux homme! Déjà dans la terre promise. Il se réjouit déjà de ce qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est la dynamique de la foi, hein, entre déjà et pas encore. Une joie anticipée. Lorsque tu seras entré dans le pays que Dieu vous a donné, vous a promis. J'ai commencé à partager d'où vient cette certitude. J'ai dit le dimanche dernier, pourquoi il était tellement sûr? Pourquoi il était tellement sûr? Parce qu'il sait qu'ils étaient en train de marcher vers le but. C'est trop simple, hein? Vous savez, quand on continue à marcher, si je vais aller à la gare, si je continue à marcher vers la gare, je suis sûr que j'arriverai. C'était à peu près ça. Hein? Le psaume 126 nous dit, « Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cri de joie quand il porte ses gerbes. » Je prie pour des gens qui pleurent. Que le Seigneur vous accorde la force de traverser. Le psaume 84. Lorsque nous traversons dans la vallée des larmes, waouh, il dit, les larmes qui sont en train de tomber deviendra l'oasis. Deuxième source de la certitude de Moïse, c'est la phrase clé de son discours. C'est quoi? Dieu a promis. C'est la promesse de Dieu. Romains 4. Paul, quand il parle d'Abraham, il a dit ceci. Contre toutes les choses qu'il lui interdisait d'espérer. Vous vous rendez compte, hein? Contre toutes les choses qu'il lui interdisait d'espérer, Abraham a espéré. Il était d'être loin de mettre en doute la promesse de Dieu, il a trouvé sa force dans la foi. Et il dit, en connaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Seigneur, augmente notre foi. J'aimerais bien citer encore un autre psaume de David. Ce psaume-là, ça me perturbe, ce psaume-là, ce que je vais vous lire. Le psaume 31, 8. « Tu serais dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, Seigneur. » Jusque-là, ça va, hein? Jusque-là, yes, of course, bien sûr. Ce qui va nous dire après. « Car tu vois mon malheur. » Que Dieu vous bénisse. « Tu vois mon malheur. Tu connais les angoisses de mon âme. » C'est dingue. C'est dingue. La situation actuelle de David, c'est malheur. L'état actuel de son âme, c'est l'angoisse. Mais il anticipe la joie. Je serai dans l'allégresse, dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'il a la confiance. Confiance en la bienveillance de Dieu. Car il voit, car il connaît. Si Dieu voit, si Dieu connaît, cela me suffit, Seigneur, hein, malgré mon malheur. On peut dire très bien, lui, c'est David. Hein. Lui, c'est David, moi, c'est Byung-gwan. Bon, ne me compare pas, s'il vous plaît, avec David. Hein. Mais le Seigneur, il est le même, hein. N'est-ce pas? Le Seigneur, il est le même. Et dans son esprit, Moïse est déjà dans la terre promise. Il anticipe comment ça va se passer. Et la première chose qu'il voit là-bas, ici même, c'est l'acte de l'offrande. L'acte de l'offrande. Pour vous rappeler, j'aimerais bien lire encore le Deutéronome, chapitre 26. Je peux lire. Ah oui, à partir du verset 2. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire demeurer son nom. Tu iras vers les sacrificateurs en fonction ces jours-là. Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main. Elle la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et tu prendras encore la parole. Ça, c'est la confession de foi. Hein. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un Araméen, nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens pour y séjourner. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit nos voix et vit notre oppression, notre peine et notre misère. L'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par une grande terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a fait venir dans ce lieu et il nous a donné ce pays. Pays découlant de lait et de miel. Maintenant, me voici. J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis, tu te réjouiras avec le Lévite, avec l'immigrant, qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Bien sûr, nous savons que l'offrande est un acte de reconnaissance pour dire merci à Dieu. Mais je me suis posé une question. Est-ce que l'offrande était si signifiante que Moïse a dû penser en premier quand il sera entré dans la terre promise? Moi, j'aurais pensé à autre chose. Maintenant, c'est fini. Ton errance, tu vas acheter des maisons, acheter, je ne sais pas en tout cas, tu vas acheter des terrains, tu vas construire ta maison, projet, plein de projets. J'aurais peut-être pensé à ce genre de choses, hein. Mais Moïse a pensé tout de suite à l'offrande. En repensant, en pensant à nos amis et aussi nos frères, qui sont immigrés, hein, des demandeurs d'asile qui sont parmi nous aussi. Hein. Alma, par exemple, sa demande est refusée, toutes les aides sont coupées, en plus, elle n'a pas de droit de travailler. Voilà. J'ai pensé aussi à Manushak, qui est là parmi nous. Je me rappelle très bien de ton partage, hein, quand on était ensemble à Landersen, dans la voiture. Elle m'a dit, j'ai reçu le papier, l'autorisation. Oh là là, ouais. Il a crié, l'Éternel a entendu. Et après, elle a dit, j'ai reçu tout de Dieu. Pour dire, elle était une femme heureuse. Mais combien de combien de portes devais-tu frapper pour demander un lieu d'accueil, hein? Georges, maintenant, il a son autorisation, il travaille. Ah oui, Manushak, elle travaille en tant que coiffeur, hein? À la place de Franklin, ça s'appelle comment là le... Ouais, vous avez entendu. Georges, lui aussi il travaille, il peut faire son projet. J'ai pensé aussi à une année où j'étais en chômage, plongé après mes diplômes, je trouve un travail. Plonger complètement dans une nostalgie, si j'étais maintenant en Corée dans mon pays. Aïe, aïe, aïe. Découragé, j'avais un sentiment. Oh, punaise, oh, excusez-moi. Comme si je ne pourrais pas faire grand-chose en France. Je ne pourrais jamais réussir en France. C'était un de mes sentiments à l'époque. Hein. Je comprends. Pouvoir offrir l'offrande, quel signe merveilleux. Quel signe merveilleux qui me permet de dire tu es libre, tu es autonome, tu n'es plus dépendant de l'autre. Tu peux établir ton projet. Tu peux devenir l'acteur de ton avenir. Oh Seigneur, merci, je t'offre. Et en même temps, l'offrande, c'est un signe, un acte par lequel que j'aimerais bien dire, Seigneur, je n'oublie pas. Je n'oublie pas que je suis d'abord un bénéficiaire. Je ne dois pas oublier toute ta grâce et toutes les aides que j'ai reçues, et de toi et des autres. Je ne dois pas oublier qui j'étais, ce que j'étais. Ô Père, merci. Certes, le peuple d'Israël peut devenir autonome, mais cela ne signifie pas qu'il peut vivre tout seul. Il aura toujours besoin, d'abord bien sûr, de la grâce de Dieu et aussi de l'autre. J'ai déjà partagé, hein, je pense, si je peux l'acheter du riz, si je peux manger du riz, c'est grâce au... gens qui ont travaillé dans leur rizière. Merci, merci et merci. Et cette offrande doit être accompagnée par une confession de foi. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu. Oui, mon père, il était un Araméen nomade. J'apporte mon offrande en confessant que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi, mon Dieu. C'est vrai, vous avez déjà remarqué à mon avis que cette confession de foi, elle est très simple, même je dirais trop simple. Il n'y a pas d'expression... même élégante, hein? Très simple. Il raconte tout simplement une histoire. En effet, notre foi en Dieu, ce n'est pas une conviction d'une pensée, ce n'est pas non plus une adhésion à une idéologie. Hein? Notre foi, c'est une rencontre, c'est une histoire, c'est un témoignage. Ainsi, nous raconte. Dans l'Ancien Testament, on rencontre le refrain qui se répète. Souviens-toi, souviens-toi. Le psaume 106. Le psalmiste, il confesse son péché en disant ceci. Nous avons péché comme nos pères. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, leurs pères, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit ceci. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils ont oublié la multitude de tes actes bienveillants. Anamnésie à répétition. L'autre côté, le psaume 103 nous dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier tes bienfaits. Cette confession de foi, c'est très simple, mais j'ai trouvé quand même, il y a quatre moments, quatre choses qui sont très, très intéressantes. Premier, comme toutes les histoires, il y a tout d'abord le point de départ. C'est-à-dire, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Il remonte jusqu'au moins Jacob. Il était en Araméen. Il était nomade. On sait maintenant l'histoire. Pourquoi il a dû descendre en Égypte pour éviter à la famine. En effet, dans notre histoire, il nous arrive de vivre ce que nous n'avons pas choisi. Deuxième élément, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Oui, en effet, dans notre histoire, il y a aussi un temps de fécondité et un temps de prospérité. Hélas, ce temps ne dure pas éternellement. Troisième temps, les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Oui, en effet, dans notre histoire, il y a des moments d'épreuve. Quatrième temps, nous avons crié à l'Éternel. Ça, c'est le noyau de la confession de foi. Très simple. Mais je trouve ici trois verbes qui sont fondamentaux pour notre confession de foi. Premier, entendre. Deuxième, voir. Troisième, agir. Ce Dieu en qui nous mettons notre confiance, c'est le Dieu qui entend notre voix, notre cri, notre misère, notre murmure et notre gémissement aussi. Et ce Dieu en qui nous mettons notre confiance, c'est le Dieu qui voit et enfin qui agit. C'est lui qui a fait sortir de l'Égypte à main forte, à bras étendus. Et au dernier moment, le peuple d'Israël doit dire « Maintenant me voici ». Maintenant, car c'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai pu traverser tout ce moment jusqu'à maintenant. Me voici. Qui suis-je pour que je puisse entrer finalement dans cette terre promise? Tous mes ancêtres se trouvaient morts dans le désert, y compris Moïse. Qui suis-je pour que je puisse entrer dans cette terre? Maintenant, me voici, Seigneur. Dernier point. Tu te régiras avec le Lévite, avec l'Immigrant, en un seul mot. Une seule phrase. Dans ta confession de foi, tu ne dois pas oublier l'autre. Le Lévite, oui, on peut dire, oui, c'est un tribu particulier qui a reçu beaucoup de bénédictions. Mais sachez que Lévite, il n'a pas reçu sa terre. Immigrant, je ne veux pas prolonger mon discours. Oui, dans notre foi, dans notre confession de foi, nous ne devons pas oublier l'autre. Je termine maintenant mon partage avec un témoignage. Récemment, il y a à peu près une semaine, Jean-Jean Merlin, il est où? Il n'est pas là, oui. J'ai reçu un mail de la part de Jean-Jacques. Il est là, oui, Jean-Jacques. Oui. Merci beaucoup, Jean-Jacques, ce que tu m'as transmis. Il se demande, mais qu'est-ce que j'ai transmis alors? Dans le site, il y a une personne qui a laissé un message, dans le site de notre église. Elle a essayé de me contacter. J'existe toujours à Besançon. J'avance. Je marche toujours plus haut vers ma patrie. Chaque jour, un nouveau pas me détache d'ici-bas. Au ciel finiront tous mes combats, dit le cantique ancien. Je suis toujours à Planoise, dans un quartier à Besançon, à la retraite, administrativement, mais active sur le terrain. Je n'ai de compte à rendre qu'au Seigneur. Amen. Qu'il vous bénisse, ainsi que chaque membre de votre Église. C'était une officière de l'armée salut à Besançon. Peut-être j'ai eu déjà l'occasion de partager. C'était autrefois. Il était une fois. Once upon a time. Wow. Un garçon qui était à l'époque encore jeune. À peine 26 ans, 27 ans. Il reçut une nouvelle de la Corée qui l'a découragé complètement. Son papa, qu'il a tout perdu l'argent, ils ne peuvent plus envoyer l'argent pour ses études. Oh, vous avez compris, je parle de moi-même. Hein? En effet, pour moi, c'était le ciel tombé sur moi. Hein? À peine j'ai commencé enfin mes études, après quelques mois, un an, deux, d'apprentissage de le français, tu sais, inscrit maintenant à la fac, à peine que je commençais mes études, que dois-je faire, Seigneur? Dois-je maintenant entrer en Corée ou puis-je rester encore pour continuer mes études? Si je reste en France, où puis-je trouver l'argent, de quoi manger, etc., etc. À cette époque-là, c'est vrai, je n'ai pas pu manger grand-chose. J'ai perdu pas mal de kilos. Vous voyez, j'ai perdu jusqu'à 10 kilos. Mm-hmm. Je me dis, Seigneur, que dois-je faire, hein? Une seule chose, c'était comme le peuple d'Israël, j'ai crié tous les matins, tous les jours. Je suis sorti parce que j'avais besoin de crier. Donc, je ne pouvais pas rester dans ma chambre parce que j'étais logé dans une famille, dans une maison. Je suis sorti, j'ai crié vraiment. J'ai crié. En face de moi, Georges, tu connais un peu Besançon. Hein? En face de moi, il y a la citadelle de Besançon. En regardant cette montagne, j'ai crié. Je ne sais pas combien de semaines passées, j'ai reçu une parole, le psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette parole-là, c'était vraiment pour moi la promesse de Dieu. Il me dit ceci, « T'as entendu ma parole, reste. » Je suis descendu de la montagne, mais après, il faut manger. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, tu m'as donné la parole, mais oh, tu ne m'as pas donné le pain quotidien, là. Hein? Plus tard, après le culte à l'armée salut, cette capitaine est venue, bon, on a bien partagé toujours, hein. Elle a dit, Johan, elle avait beaucoup de mal de m'appeler Byung-Gwan, donc elle a décidé de m'appeler Johan. Johan, oui, capitaine. Non, je n'ai pas fait comme ça. Vous allez bien? Ah bien, bien sûr, tout va bien. Elle m'a dit, vous allez bien? Oui, je vais bien. Elle me regarde droit. Je vous demande encore, est-ce que vous allez bien? Je dis, mais capitaine, pourquoi vous me demandez autant de fois? Elle a dit, pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit dans mon cœur, Johan, il va mal. Il ne mange pas. C'est pourquoi j'ai besoin de votre réponse honnête. Ben, vous savez, après ma réaction, c'était les larmes tombent. Ouh, capitaine, mais non, bon, voilà. Et après, j'ai vécu pas mal de miracles. Hein. Surtout, l'armée de salut, cette capitaine, pour moi, c'était vraiment l'ange de Dieu. Hein. Bon, je ne peux pas encore continuer tout cela. Mais en même temps, je partage, hélas, moi, pendant longtemps, je n'ai pas pensé à elle. J'ai oublié. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et quand j'ai reçu ce mail, en plus à la fin, amen, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que chaque membre de votre Église. Ouais. Nous ne sommes pas seuls, hein? Nous sommes pas seuls. Le Seigneur, il est avec nous. Mais cultivons-nous, priez pour moi vraiment, priez pour moi aussi, que je n'oublie pas des gens, parce que je suis vraiment... Ouais. Donc, prions ensemble, construisons ensemble cette culture, cette piété, cette foi vivante. Voilà. En disant merci au Seigneur, en disant aux autres, aux uns aux autres, merci pour toi, merci à toi, merci à l'Église. Certes, nous avons encore beaucoup de choses à travailler, pour laquelle à travailler tout cela. Oui, avançons ensemble. Seigneur, il est avec nous. Et chaque fois, disons, « Oh Seigneur, maintenant me voici. Maintenant nous voici. » Ainsi après, encore de nouveau, pour une autre étape, engageons-nous, avançons-nous ensemble. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, mon partage. Je vous invite à la prière. Seigneur, souvent, j'ai cette pensée, j'ai aussi ce sentiment-là. Surtout après avoir prêché, partagé quelque chose, proposé de ce que j'ai reçu de toi par ta parole à mes amis, à mes frères et mes sœurs. En effet, c'est toujours facile de parler, de dire. Même je viens de partager mon témoignage en disant « j'ai oublié ». Voilà, c'est mon capitaine. Pourtant, depuis une semaine et demie, je n'ai pas osé la contacter. Parce que dans ma tête, je cherche un peu des prétextes. Je suis comme ça, Seigneur. Aussi, mais toi, tu me connais parfaitement comme ça, mais tu continues de m'aimer. Merci Père. Merci Seigneur pour ce courage que tu m'as donné, pour que je puisse aussi partager à mes amis, mes sœurs, mes frères. Seigneur, aide-nous. Aide-nous vraiment à ne pas oublier ta grâce. Bien sûr, Seigneur, je suis tellement heureux, nous sommes tellement heureux parce que tu es là, parce que nous vivons des choses merveilleuses avec toi et aussi avec les uns les autres. Mais Seigneur, même dans notre joie, j'aimerais bien, nous aimerions bien que nous n'oublions pas non plus aux autres. Seigneur, oui, tu nous connais parfaitement, c'est pourquoi, Père, nous pouvons te dire, voilà, de nous accompagner, de nous aider. Seigneur, merci pour tout le chemin que chacun et chacune a pu faire. C'est pourquoi maintenant nous pouvons dire aussi, maintenant nous voici. Il y avait des moments de bonheur, il y a des moments d'épreuve. Seigneur, c'est comme ça, toi-même. Tu as traversé ici-bas tous ces moments. Mais le dernier mot, que c'est toi qui prononceras. Oui, viens, mon fils, viens, ma fille, et partage la joie de ton maître. Seigneur, oui, finalement, c'est la joie. Soit anticipé, soit présent, soit dans notre passé. C'est la joie qui définit vraiment notre parcours, notre histoire. Car c'est toi qui étais avec nous, qui es avec nous. La joie de l'Éternel est notre force. Merci Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter encore un chant. Arc-en-ciel, l'arc-en-ciel 574. 574. Pour que le jour qui se lève soit plus beau.